a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Le Congrès américain a décidé le Patriot Act qui avalisait la collecte massive des données téléphoniques des Américains a été abrogé mardi dernier. Les parlementaires américains ont ouvert la voie à une nouvelle législation qui consacre davantage les libertés publiques et porte le nom révélateur de Freedom Act. Ce sera le sujet de l'Amérique et vous ce soir. Bonsoir et bienvenue.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
La NSA, l'agence américaine de collecte des données, a été contrainte de suspendre son stockage d'informations sur les appels téléphoniques américains révélés au grand public par Edward Snowden, faute d'avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation légale de ce programme par le Congrès américain. Le Congrès a mis en route une nouvelle loi. Le Freedom Act, Michel Joseph.
L'enregistrement et la sauvegarde des données téléphoniques sera désormais effectué exclusivement par les compagnies de télécommunications privées. La National Security Agency, NSA, est écartée de cette tâche. Les autorités fédérales devront dorénavant solliciter une ordonnance du tribunal d'examiner des données et rechercher des points de contact avec des terroristes connus ou présumés à l'étranger. Le président Obama était l'un des défenseurs de la nouvelle législation. L'enthousiasme du chef de l'exécutif n'est pas partagé par le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui a mis en garde contre une Amérique moins sûre. Il a qualifié le vote de victoire retentissante pour ceux qui complotent actuellement contre la patrie.
Cette loi sape sûrement la sécurité des Américains en enlevant un outil de plus à nos soldats engagés dans les conflits. À mon avis, cela arrive exactement au mauvais moment.
Le Freedom Act bénéficie d'un soutien très fort chez les démocrates, mais divise la majorité républicaine, dont certains voulaient ressusciter le programme de surveillance du gouvernement, autrefois clandestin, mais porté au grand jour par l'ancien contractuel des renseignements, Edward Snowden, aujourd'hui réfugié en Russie. La sénatrice Susan Collins a fait valoir que le contrôle des données de téléphone par les compagnies est moins sûr.
Le nouveau système va être moins efficace car il n'y a absolument aucune garantie que ces données seront conservées par les sociétés de télécommunications et les opérateurs de téléphonie sans fil.
D'autres parlementaires, comme le démocrate Richard Blumenthal, fait l'éloge du projet de loi. Pour lui, la loi est une garantie pour la protection de la vie privée.
We need to strike a balance that protects very precious.
Nous devons trouver un équilibre qui protège en même temps les droits et libertés constitutionnelles très précieux. Après tout, à quoi sert notre système de surveillance et de renseignement? Sinon, de protéger ces valeurs fondamentales et les droits à la vie privée et les libertés qui ont fait leur preuve.
And served us well.
Pour arriver à un vote final, le Sénat a dû surmonter une tentative de blocage avec une motion de censure introduite par le républicain Rand Paul, qui est radicalement opposé à la collecte massive des données téléphoniques, fût-ce par une compagnie. Pour lui, cela reste encore et toujours une violation de la Constitution de la vie privée des Américains.
67 sénateurs ont voté pour le Freedom Act contre 32. Quelles sont les nouvelles orientations et les perspectives après ce vote? La réponse est dans un instant avec notre invité.
L'avis du spécialiste.
Notre invité pour parler des enjeux du Freedom Act, c'est M. Chika Kanyuri. Il est le président et éditeur du magazine Transatlantique.
La nouvelle loi, en fait, elle a gardé une bonne partie de principes de l'ancienne, mais on sait que ce qui a été le plus discuté, c'est quand le peuple américain avait découvert que le gouvernement, finalement, gardait ses communications téléphoniques et sur Internet, quoi, toutes les télécommunications. Ça, c'était la découverte avec l'agence Snowden qui avait vendu ça presque à l'étranger, quoi, qui est réfugié aujourd'hui à Moscou. Et donc, le gouvernement a dû quand même réagir, puisque le peuple n'était pas très content, même si on sait que s'il y a un problème difficile d'équilibre entre la liberté individuelle et la sécurité de l'État, et que les Américains sont attachés aux deux. Et donc, il fallait qu'on arrive à trouver un équilibre sérieux entre les deux. Et c'est comme ça que, finalement, le président Obama, comme on le sait, que même dès le début, quand le Patriot Act avait été pris après le 11 septembre, il n'était pas totalement d'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment d'accord avec tous les principes qu'il y avait dedans.
Le changement de nom obéit donc à une façon de laver le blason terni du Patriot Act?
Oui, absolument. C'est l'objectif essentiel, puisqu'il y a eu non seulement il y a eu des protestations à l'étranger, ça c'est sûr, des pays étrangers qui ont découvert, mais on sait que pour les pays étrangers, c'était moins sûr, puisque eux-mêmes font à peu près la même chose quand ils en ont les moyens. Donc, on sait que c'est de l'hypocrisie, mais c'est surtout la partie interne où les Américains, comme ils tiennent absolument à la liberté, ils ne voulaient pas que l'État puisse se mêler trop de leurs affaires sans les avoir avisés. Donc, et c'est comme ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, disons que la nouvelle loi, c'est que ces informations-là vont rester plutôt aux entreprises de technologie.
L'opinion ne semble retenir que la surveillance des données téléphoniques. Oui. Y avait-il autre chose dans la loi de 2001?
Oui, il y avait beaucoup d'autres choses pour la surveillance des terroristes, des gens qui sont soupçonnés de pouvoir, avec tout ce qu'on pouvait faire, avec beaucoup d'autres affaires qui existent aujourd'hui, même les systèmes de drones et autres qui aujourd'hui font beaucoup rage, et puis tout ça, tout date de ce moment-là à peu près. Et qu'à ce moment-là, on se rend compte que les États-Unis étaient complètement dépassés, ce qu'on peut dire, parce que depuis Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, c'était la première fois, en fin de compte, le 11 septembre 2001, que les États-Unis ont été directement attaqués sur leur territoire. Et que le gouvernement était dépassé, il a pris beaucoup de mesures, dont certaines souvent peut-être que n'étaient pas les meilleurs, mais il n'y avait pas de choix, quoi.
Alors, on craignait un bras de fer sur ce projet de loi, le Freedom Act, mais il est passé comme lettre à la poste. Pourquoi en seulement 48 heures? Pourquoi ça s'est passé comme ça, selon vous?
Il y avait déjà eu un arrangement entre les deux grands partis, entre les républicains et les démocrates. Et comme on l'a souvent dit, il y a des questions sur lesquelles tous les Américains s'entendent, disons presque toute la classe politique, c'est la sécurité de l'État et la liberté. Donc il a fallu trouver une façon, même quand on sait que les républicains n'aiment pas vraiment faciliter la tâche au président Obama, mais il n'y a personne chez les républicains qui voudrait passer pour avoir empêché des mesures qui auraient pu éviter qu'il y ait des attentats au pays. Donc, supposer par exemple qu'un attentat se soit produit après ça, au moment où il y a eu un ou deux jours où le système ne fonctionnait plus, sentait que les républicains d'autres, n'importe des deux partis, auraient porté une lourde charge dedans. Et c'est donc, depuis, ils s'étaient déjà entendus, donc les deux grands partis se sont entendus, et à la Chambre ce qui était déjà très remarquable, à la Chambre de représentants qui est dominée par les républicains, ils avaient déjà eu un compromis avec les démocrates et le président. Et donc, la dernière fois, le problème, c'était qu'au Sénat, où il fallait absolument voter, comme dans le système américain, il fallait que cette loi soit votée, la proposition de loi soit votée par les deux chambres, de la même façon, pour qu'on l'amène chez le président pour la promulgation. Et donc, c'est au niveau du Sénat qu'il y avait eu quelques problèmes de procédure, comme on a dit, à le souligner, avec Ron Paul, c'est-à-dire un candidat, un prétendant chez les républicains à l'investiture pour la présidence, et qui a compris ce qu'il pouvait tirer dans une telle opération, c'est-à-dire qu'il a utilisé la procédure pour bloquer, pour qu'on ne puisse pas, évidemment, pour s'arranger, pour bloquer l'approbation de la loi à ce moment-là. Mais il savait très bien que ce qu'il faisait ne serait que dilatoire, que ça prendrait quelque temps, puisque le consensus était déjà acquis entre les deux grands partis pour que la loi soit approuvée. Et comme on a vu qu'en deux jours, tout a été fait, puisque le président a rapidement promulgué la loi, puisqu'il n'y a personne qui, parmi la classe politique, qui voulait un vide plus long pour une situation qui aurait pu être très embarrassante pour la sécurité du pays.
Pourquoi les opposants à la National Security Agency ne désarment-ils donc pas, puisque la cause était entendue?
Oui, absolument. C'est qu'il y a quand même un groupe de gens qui croient que tout ça n'est pas nécessaire pour et qu'il y en a qui pensent que ça n'assure pas plus la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui disent que jusqu'à présent, ils ne sont pas convaincus que ces méthodes ont empêché des attentats. Et surtout, on les trouve bizarrement, très souvent, on les trouve surtout dans la gauche américaine, qui sont un peu nombreux chez les démocrates, mais on en trouve aussi presque à l'extrême droite, chez les républicains, comme celui qui a failli faire annuler la loi, celui qui a fait traîner retarder l'approbation. Donc c'est les libertariens qui croient que l'État a tous les droits, qui ne croient pas en l'État, quoi, qui croient que les libertés individuelles sont souveraines presque, mais il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas avoir des libertés quand il n'y a pas d'État pour les garantir, sinon ça serait le chaos total. Chacun ferait ce qu'il veut. Mais les gens comme aujourd'hui, ils continuent à croire qu'ils ne sont pas sûrs, les gens qui croient aux libertés publiques, comme on dit aussi du côté gauche, ne sont pas sûrs que ce sont des mesures. Ils disent qu'ils réduisent les libertés, mais ils ne sont pas sûrs qu'elles assurent absolument la sécurité de l'État. Donc, c'est leur problème.
Est-ce que le retrait de la surveillance téléphonique des données des populations ne donne-t-il pas finalement raison à Snowden?
Snowden a eu une partie raison. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il a une partie raison, mais aujourd'hui, tout n'a pas été. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est d'éviter que le gouvernement ait rapidement accès à ces données, puisque ces données vont être gardées, désormais vont être gardées par les opérateurs de télécommunications. Et il faudra l'appui d'un juge pour que l'État y ait accès rapidement, donc quand c'est nécessaire. Donc, effectivement, il y a un peu plus de protection, de liberté, mais Snowden, le problème que les gens l'ont... Même les gens qui les soutiennent, évidemment, sont d'accord qu'il a fait, il a apporté quelque chose. Mais c'est que les autres, évidemment, le gouvernement et beaucoup de dirigeants disent qu'il aurait trouvé une autre façon peut-être de les faire que de les donner à la face du monde. c'est ça ce que les gens lui reprochent, d'avoir indirectement disent qu'il aurait fragilisé la sécurité des États-Unis en racontant ça au monde entier, quoi.
La nouvelle loi est censée protéger la liberté des Américains,
oui,
mais aussi l'aspect sécuritaire. Pensez-vous que liberté et sécurité, définitive, sont réconciliées dans le Freedom Act?
Disons que c'est mieux qu'avant. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est mieux qu'avant, puisque les gens ne se sentent pas, puisque je pense que les Américains aussi aujourd'hui on soumettait probablement cette loi-là à un référendum ou disons si on cherchait probablement à voir, on voit que dans les sondages, la plupart des Américains sont relativement d'accord sur cette histoire parce que, comme je disais tout à l'heure avant, ils sont pour la liberté. La liberté, c'est le moteur fondateur des États-Unis, mais aussi la sécurité, puisqu'ils savent très bien que la majorité des gens savent qu'ils il serait difficile d'avoir une sécurité, une liberté sans sécurité, puisqu'il faudrait arriver, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les deux, et c'est probablement ça que cette loi-là tente, mais comme vous savez, avec les données politiques, tout le monde avait ses affaires, intérêts à faire dedans, mais je pense que le président Obama aussi est à peu près du même groupe, puisque vous le savez très bien que le président Obama était parmi les gens qui étaient, avant qu'il ne soit où il est parmi les gens qui étaient opposés quand même à la guerre du Golfe. Puis tout ça, c'est pas quelqu'un qui... Mais il est pour les libertés, mais il est comme un ancien professeur de droit constitutionnel. Il se sait, puisque c'était un boulot qu'il faut entre cet équilibre entre les libertés et la sécurité. C'est son boulot et il est obligé de voir comment les faire.
Alors, vous avez parlé du président Obama, on va terminer par lui.
Oui.
Qu'est-ce que ce débat sur le Freedom Act lui apporte en tant que président qui finit son mandat?
Je crois que ça lui apporte d'abord une première... Est-ce que le président Obama, quand on sait d'où il est parti, puisque vous savez, au début, le président Obama, ce qu'on lui reprochait, c'est de dire qu'il ne connaissait pas grand-chose à la sécurité de l'État. Pendant longtemps, ça a été un argument chez les républicains contre lui. Et puis, sitôt qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est montré à la hauteur, notamment en faisant éliminer Ben Laden, puisque beaucoup de gens pensent que s'il ne l'avait pas fait, sa réélection n'aurait pas été si facile. La deuxième fois. Et puis, donc, il a fini par leur montrer qu'il était un vrai commandant en chef. Et les Américains, ils sont assurés avec ça, ils sont rassurés, puisque c'est la première des choses. Il faut qu'ils aient un président capable de les protéger. Mais aussi le président Obama, qui vient des mouvements, comme j'ai dit, des mouvements proches des mouvements de droits civiques et d'autres droits, et professeur de droit, il ne pouvait pas ne pas comprendre ce que les Américains veulent, qu'ils veulent aussi les droits. Et je pense que sur ce point, il est en train de faire un effort. C'est sûr que c'est un moment toujours difficile quand il est avec les républicains qui dominent maintenant les deux chambres, qui lui sont hostiles. Mais le fait, par exemple, qu'il est arrivé à ce compromis avec eux, prouve quand même qu'il a su travailler et que aussi, pour comme on est en train de voir même sur à l'étranger, puisqu'on voit aussi qu'il essaie de voir de faire la même chose dans la politique étrangère, on peut voir par exemple que pour les affaires comme Boko Haram en Afrique et autres, le gouvernement américain a quand même facilité, il a été le content qu'il y ait eu des changements dans des pays comme le Nigeria. Donc, et on pense qu'aujourd'hui, on sent que grâce au nouveau pouvoir, même Boko Haram va probablement disparaître, puisque les conditions vont disparaître qui l'ont fait apparaître. On sent aussi qu'il fait quand même des pressions pour dans des coins comme le Congo pour qu'il y ait de bonnes élections. Et puis quand on arrive à ça, pour qu'on puisse arriver à quelque chose de remettre le pays en ordre en obligeant le président Kabila à ne pas se représenter selon les règles normales des choses. On voit aussi que même au Burkina Faso, aujourd'hui, on le sait que sans l'intervention américaine, probablement que Blaise Compaoré serait resté. Les Français l'auraient probablement protégé. Mais avec la vigilance, d'ailleurs, pour l'Afrique, c'est quand même intéressant de voir que c'était que l'ambassadeur Tulinabo Mushini, qui est d'origine congolaise d'ailleurs, qui est cet ambassadeur américain qui a fait un très grand travail pour le départ de Blaise Compaoré. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont convaincu que ça ne valait plus la peine que ça reste. Et je crois que avec ça, petit à petit, le président, il marque quand même des choses. On sait que c'est peut-être pas très visible du premier coup, mais on pense qu'avec le temps, il aura fait des choses, puisque s'il arrive à mettre de l'ordre pour l'Afrique, si réellement il arrive à mettre de l'ordre, à aider le Congo à se redresser, comme il est en train d'aider le Nigeria à changer de choses, je pense qu'il aura fait quelque chose, puisque ce sont des pays les plus importants, finalement, qui peuvent changer l'Afrique.
Chika Kanyuri, président et éditeur du magazine Transatlantique.
L'Amérique et vous, juste une dernière chose.
C'est fait, le président Barack Obama a promulgué la loi qui met fin à la collecte massive des données téléphoniques par le gouvernement américain, une pratique qui visait, dit-on, à empêcher les attaques terroristes après les attentats de septembre 2001 aux États-Unis. Idrissa Seydou Dia.
Selon le président Obama, cette nouvelle loi protège mieux les libertés civiles et la vie privée, tout en assurant la sécurité nationale des États-Unis. Quelques heures plus tôt, mardi, le Sénat avait adopté à une majorité écrasante le projet qui avait été auparavant approuvé par la Chambre des représentants. Au terme de cette nouvelle loi, les compagnies de téléphone américaines et non plus la très secrète Agence de la sécurité nationale vont collecter et stocker ces métadonnées de citoyens américains, c'est-à-dire l'heure, la durée, le numéro appelé et non pas le contenu des appels eux-mêmes. Désormais, pour examiner ces données, les enquêteurs fédéraux auront besoin d'une décision d'un tribunal s'ils soupçonnent quelqu'un d'avoir contacté des terroristes connus ou présumés. Les détracteurs de l'ancienne loi la qualifiaient d'atteinte à la vie privée de millions d'Américains qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme.
Voilà, ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous consacrée au Freedom Act qui met un terme à la collecte massive des données téléphoniques aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Roger Billon, pour vos services. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir à tous.